Cogeco Nouvelles.
26 avril, vendredi. Ici Guy Simard, Geneviève Guilbeault a répété aujourd'hui qu'elle n'avait pas la mission d'assumer les déficits des sociétés de transport en commun gérées et administrées par les villes. La ministre donc est revenue brièvement sur sa déclaration d'hier à l'effet que le transport en commun n'était pas la première mission de l'État, encore moins combler ses déficits endémiques. En entrevue à notre antenne, elle a nuancé ses propos ainsi.
Soutenir le transport collectif, c'est la nuance que j'ai faite hier. Gérer les opérations des sociétés de transport, c'est pas une responsabilité de l'État. Et si je voulais me mêler de cette gestion-là, je suis certaine que les mêmes élus qui en ce moment disent que c'est mon travail, me diraient de pas m'en mêler.
À deux mois du 1er juillet, plus de 350 ménages demandent déjà de l'aide pour se loger aux équipes des offices d'habitation de Montréal, Laval et Longueuil. Et ce ne serait que le début. Annie Guillemette.
Plus tôt cette semaine, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a imploré les citoyens à demander de l'aide.
Si on fait appel aux services d'aide, les gens vont être épaulés dans leurs recherches.
Mais pour Cédric Dussault, du regroupement des comités logements et associations de locataires, les gens font d'abord leurs recherches et frappent ensuite aux portes des organismes communautaires.
Ils sont encore en train de chercher un logement par leurs propres moyens, surtout.
Dans la métropole, 350 demandes d'aide ont déjà été transmises aux offices d'habitation. Parallèlement, plus de 17 000 ménages attendent déjà un logement à prix modique, un portrait qui annonce une journée de déménagement encore extrêmement difficile. Les évictions se multiplient et on ne construit pas.
On ne voit pas vraiment comment là, la situation pourrait être meilleure qu'elle l'a été le 1er juillet de l'an dernier.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, promet donc un soutien élargi et se dit préoccupée devant la gravité de la situation.
Un toit, c'est un droit fondamental.
Annie Guillemette, pour Cogeco Nouvelles.
Devant l'augmentation des cas de cancer, des groupes dédiés à la lutte au cancer exhortent le gouvernement provincial à mettre sur pied un plan d'action avec des fonds dédiés. D'après les données transmises par la Fondation québécoise du cancer, 22 500 personnes ont succombé à une forme de ces cancers au Québec l'an dernier. C'est donc 62 décès du cancer par jour. Les cas sont en augmentation depuis un bon moment et cette tendance risque de se poursuivre en raison, bien sûr, du vieillissement de la population, d'où l'importance d'agir, selon le directeur général de la Fondation, Marco Dessel.
On voudrait avoir un haut gradé de la future Agence Santé Québec qu'on va pouvoir directement interpeller lorsqu'il y aura des problématiques très pointues en termes de cancérologie. On est témoin, on voit des choses. Et là, malheureusement, présentement, ça passe par toutes les CIS et CIUS. S'il y a quelqu'un au-dessus de ces gens-là, c'est inévitable que ça va avoir une amélioration, selon nous.
Québec et Ottawa investissent près de 100 millions pour la fabrication de semi-conducteurs à Bromont, une technologie omniprésente dans les appareils que nous utilisons tous les jours. Cela permettra la création de près de 280 emplois et 240 postes de stagiaires chez IBM Canada, entre autres. L'objectif est d'accroître l'autonomie canadienne dans ce secteur névralgique, le premier ministre Justin Trudeau.
Avec les préoccupations sur la géopolitique et la fragilité des chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs, qu'on a besoin d'avoir de la production domestique en Amérique du Nord. Et c'est une reconnaissance que, même si les Américains tentent vouloir tout faire chez eux, ils reconnaissent que tout faire chez eux, c'est aussi faire avec le Canada.
Après avoir rencontré les autorités chinoises, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a averti que Washington agirait si la Chine ne cessait pas de fournir à la Russie des articles utilisés dans sa guerre contre l'Ukraine. M. Blinken a déclaré à la BBC qu'il avait dit à ses homologues chinois qu'il contribuait à alimenter une menace pour la sécurité de l'Europe et la sécurité mondiale. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo.
4 degrés dégagés ce soir, cette nuit pour Montréal. 18 demain, ce sera généralement ensoleillé. 21 dimanche, avec 70% de risque de pluie. À Gatineau, cette nuit 2, dégagé. 17 demain, pluie intermittente. 60% pour les risques dimanche, 22. Sherbrooke, moins 6 et 17 soleil demain. Même chose à Trois-Rivières, moins 4 et 15. Même chose à Québec, moins 3 et 17.
Cogeco Nouvelles.
Bonjour, ici les gens de Terrebonne. J'invite à ne pas manquer.
Bon, laisse faire, je vais m'en occuper. Ici Jean-Claude Gélina. Chaque jour sur CFIX FM 93 Rimouski, je vous invite à ne pas manquer mes petites vites.
Jusqu'à minuit, le réseau Cogeco vous présente les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Ford, construit avec fierté.
Avec Maxime Lapierre. Bon vendredi soir, bon début de week-end, Maxime.
Salut, Mario.
Maxime, t'es-tu... si tu donnais une note là, aux séries sur 10 dans l'ensemble, tu sais, on dit toujours, c'est sûr que le niveau de jeu est supérieur à la saison régulière, puis ça fait du bien, mais moi, en ce qui me concerne, je suis un peu sur mon appétit.
Dans quel sens? T'es pas satisfait ou...
Ben, tu sais, il y a eu beaucoup de matchs à sens unique. Déjà, deux équipes face à l'élimination, sur le bord d'être balayées. On dirait qu'il y a des clubs qui sont pas de calibre. Il y a des clubs qui font de la figuration. Je sais pas comment tu vois ça.
Je suis d'accord. Par contre, je dirais qu'en deuxième ronde, ça va changer dramatiquement. Je pense
oui,
que les fameux match-up, comme on dit, tu sais, il y a des équipes en ce moment. Tu sais, c'est toutes des analyses différentes, mais comme Tampa Bay, je les avais pris, moi, pour remporter la série. Par contre, je réalise qu'on est rendu ailleurs mentalement, puis côté passion, on n'a plus la même passion que les équipes qui n'ont pas encore remporté le gros trophée. Puis c'est normal, là, tu sais, c'est l'instinct, tu sais, à un moment donné. Là, ça, c'est mon analyse de cette série-là. De l'autre côté, les Islanders, on n'a pas su s'ajuster au niveau hockey côté vitesse dans la Ligue nationale. Là, on paye le prix pas à peu près contre les Hurricanes, qui sont beaucoup trop rapides. Les Rangers jouent contre une équipe qui est rentrée par la porte en arrière, qui n'a pas rapport en série avec les Caps. Donc, si tu enlèves ces équipes-là, là, après ça, puis tu commences à penser aux affrontements du deuxième tour, je pense que là, ça va commencer pour vrai.
As-tu l'impression, à regarder ça, j'ai posé la question aux amateurs mercredi soir, Maxime, que le Canadien est à des années-lumière de certaines de ces équipes-là? Parce qu'honnêtement, des fois, j'ai l'impression qu'il y a bien des clubs éliminés qui feraient pas pire que des clubs qui sont en série.
Ouais, non, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, il reste que c'est la Ligue nationale de hockey. On qualifie souvent les équipes qui sont en dehors des séries comme des mauvaises équipes, mais c'est pas le cas. C'est vraiment juste le fait qu'il y a 16 équipes en série, puis on peut pas en prendre plus que ça, parce que des fois, tu peux prendre une équipe éliminée, puis tu peux les faire jouer au premier tour, peut-être qu'ils arrivent avec un certain momentum en série, puis ils jouent pas de la même façon, ils sont plus confiants, ils ont moins de blessés. Tu sais, les choses changent vite dans la Ligue nationale de hockey, mais t'as tellement raison, si on pense aux Canadiens, on n'est pas si loin que ça des Islanders, selon moi, puis des Caps, tu sais, il manque pas tant de joueurs que ça.
Dallas, je suis un petit peu déçu, mais en même temps, est-ce que Vegas, qui en saison régulière avait peut-être l'air moins redoutable, là, une fois tout le monde revenu de la liste des blessés, il ressemble au club qui a gagné la coupe l'an passé, là, m'a dire,
sont difficiles, pis c'est vraiment, tu sais, on est beaucoup concentré sur les high calls, les stones et les blessures, les nouvelles acquisitions, mais la réalité dans cette équipe-là, c'est que t'as 6 défenseurs étoiles théoriquement. Puis ça fait que la relance est rapide, on passe pas de temps dans notre territoire, il y a pas de place pour entrer en territoire défensif de leur côté, on est bon pour lancer la rondelle de la ligne bleue. Tu sais, on n'a pas de faiblesse en défensive, puis on a une équipe d'étoiles à l'attaque. Donc selon moi, ils sont difficiles à battre, puis théoriquement t'as même pas le premier goaler, selon moi, dans le filet en ce moment, là, tu sais, Aiden Hill, il y a eu des blessures cette année et tout ça, mais il est même pas dans le filet. Imagine quand il va revenir, s'il est au même rythme qu'il était l'an passé. On va être difficile à battre à Vegas.
Oui, en effet, et,
je vais t'ajouter quelque chose, Mario,
tu peux ajouter tout ce que tu veux, Maxime.
Ce que tu mentionnais tantôt, que, tu sais, sans dire qu'on est un peu déçu du premier tour, je pense que le hockey s'en va par là, par contre. Tu sais, on essaie d'enlever les grosses mises en échec, les combats. On essaie d'enlever les choses après le sifflet. Puis moi, je pense que, oui, c'est important de protéger les joueurs, mais à un moment donné, la ligne est mince en protéger les joueurs puis enlever la passion dans les matchs. Puis j'espère qu'on s'en va pas trop de l'autre côté, parce que là, on dirait qu'on joue 60 minutes, on prend les résultats, on s'en va à la maison puis on recommence demain. C'est plus le même style d'hockey, puis je comprends très bien que le hockey évolue, mais je pense qu'il y a quand même un entre-deux.
Ouais, et l'autre affaire aussi, c'est que c'est sûr que là, quand une série part rien que sur un bord, tu sais que ça veillera pas tard à moins d'un gros revirement, là, mais peut-être que là, comme tu sais, il va y avoir des longues séries, puis peut-être qu'on va entrer dans le crunch de ces séries-là dans les prochains matchs. Là. C'est encore jeune, peut-être que j'ai des trop grosses attentes aussi par rapport à cette intensité-là, mais effectivement, ce que tu dis a du sens, c'est que ça change la nature des matchs, mais aimes-tu ça, toi, quand il est là, se moucher le nez bien comme il faut après chaque coup de sifflet, ou que t'aimes ça qu'il y a une certaine discipline de ce côté-là puis une certaine rigueur de la part des arbitres?
Ben moi, la rigueur, j'aime ça quand le match est hors de portée, puis c'est 4-0, oui, puis il reste 3 minutes, puis là, ça commence à être ridicule. Ça, je suis content. Quand on sort les joueurs, on donne des 10 minutes, le match est fini. Quand c'est 1-1 en deuxième période, qu'il y a de l'intensité, qu'il y a des mises en échec, laissons-les jouer. Tu sais, je te dis pas s'il y a un coup salaud ou quelque chose du genre, mais laissons les gars s'exprimer, laissons la passion prendre le contrôle de l'amphithéâtre. Tu sais, ce qui fait que les gens paient puis les gens adorent les matchs de série, c'est quand on est sur le bout de notre siège, qu'on se lève, qu'on crie, qu'on a de, on a beaucoup de passion, puis c'est la même chose pour les joueurs. C'est ce qui fait que le hockey de série est extraordinaire.
Ouais, t'as tellement raison. Je fais une petite parenthèse, toujours dans le monde du hockey. André Tourigny vient d'être confirmé comme entraîneur-chef de l'équipe canadienne pour les championnats du monde. Bon, je sais que c'est pas tout le monde là, qui trippe sur le championnat du monde. D'ailleurs, toi, Suzuki qui y va pas, puis Samuel Montembeau, ça te fait pas un pli,
non.
Max, non, hein?
Non,
c'est ça, OK.
Non.
Ben moi non plus.
Non, je pense que on peut pas tout savoir non plus. Si t'as un petit bobo qui est pas le style de bobo qui va te faire manquer un match dans la saison, mais que t'as besoin de guérir pour être à 100% lors du camp d'entraînement l'an prochain, c'est une bonne gestion de carrière. Puis ça, faut arrêter de penser qu'on sait tout sur les joueurs. Il y en a qui c'est des raisons familiales, il y en a c'est des raisons de santé, il y en a c'est mental. Donc, faut donner le bénéfice du doute dans ce département-là.
Mais pour revenir au point initial, André, donc, est confirmé comme entraîneur-chef. Je suis content pour lui parce que,
ouais.
Tu sais, veut, veut pas, il a coaché un club dans une situation qui était pas facile, une série de défaites. Puis, tu sais, les coachs, c'est jamais des situations confortables. Confirmé également dans son rôle d'entraîneur de l'équipe qui n'est plus les Coyotes de l'Arizona, là, qui va être à Salt Lake City. Mais ça veut dire que, quelque part, les gens peuvent voir à travers les circonstances dans lesquelles il a manœuvré. Puis ouais. Toujours considéré que c'est encore un des meilleurs entraîneurs, en tout cas à mon avis. C'est sûr qu'on a un parti pris, là, il parle tout le temps, c'est notre ami, mais content ouais. Pour lui.
100%, puis tu sais, moi c'était mon entraîneur, mais Jet Roy, puis je l'ai vu dès le départ que c'était quelqu'un de spécial. Puis
ah,
je
oui?
pense que c'est l'entraîneur idéal pour un tournoi comme celui-ci, parce que il est capable de créer un esprit d'équipe dans une petite période de temps. Tu sais, il a du charisme. C'est un gars qui est très très ouvert, qui respecte beaucoup l'individu, puis il va amener cette équipe là à un niveau comme si ça faisait 82 matchs qu'ils jouent ensemble. Tu sais, c'est un gars qui parle bien, il sait quoi dire. Comment je pourrais dire ça? T'as l'impression que c'est un grand frère plus qu'un entraîneur. Puis c'est un gars très structuré aussi. Puis de l'autre côté, il est demandant dans sa structure. Puis je pense que les deux mix, là, ça fait que c'est un entraîneur idéal.
Tu jouais où, Midget 3, Maxime?
Au Cap de la Madeleine.
OK, OK. T'es originaire d'où exactement, donc?
Repentigny, mais ouais, j'étais pas mal le dernier sur le territoire. J'ai rêvé ça, jouer à Montréal, mais donc ils m'ont envoyé au Cap de la Madeleine.
Repentigny, c'était sur le territoire de Cap de la Madeleine?
Oui, à l'époque, oui. Mais là, okay. Les choses ont changé, là, mais okay. On était dans la famille de pension, puis c'est parti à un jeune âge.
La 40, pas bien loin, dans le fond, là, tu sais, ouais. c'était pas si pire, mais c'est le fun de se rappeler ces moments-là. Et puis, ce soir, les matchs, qu'est-ce que tu vas regarder ce soir? Ben là, Rangers, Capitals, d'après moi, les Rangers, je sais pas s'ils vont balayer Washington. Canucks, c'est Canucks contre les Predators. Les Canucks viennent de marquer, là, c'est 1-0 ouais. Pour Vancouver. Eux autres, tu sais, ils ont un test, là, pas de Demko devant le filet, Maxime.
Pas de Demko, puis je suis un peu inquiet des performances de Peterson. Là. C'est un joueur qui est quand même très important pour eux. Puis en ce moment, on voit pas mal le même style de hockey qu'on voit de la part de Marner à Toronto. Ces joueurs-là doivent prendre contrôle de la situation. Sinon, si c'est pas au premier tour, ça va être au deuxième tour qu'on va dire bye-bye. Parce que le hockey, dans les grosses équipes, là, tantôt on parlait des équipes qui sont en difficulté, mais les grosses équipes jouent du gros hockey, pas à peu près. Donc ça peut aller vite si les joueurs étoiles ne sont pas présents.
Nylander, par rapport au mystère entourant sa blessure, que lui-même ne veut pas démasquer, c'est business as usual. C'est quand même assez courant en série qu'on veut pas rien dire sur les blessures. Mais tu trouvais ça curieux ou mystérieux, tout le cas de William Nylander?
Curieux du fait qu'il patine. Puis j'ai vu quelques séquences où il perd l'équilibre. Ça m'inquiète un peu. Est-ce que c'est un manque de confort dans ses bottines ou c'est quelque chose côté équilibre, commotion? J'ai aucune idée, mais on s'entend qu'un joueur talentueux comme lui, qui était très, très performant lors des dernières séries, d'ailleurs, ça fait 2-3 ans que c'est le meilleur joueur des Leafs, selon moi, en série. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de grave s'il joue pas.
Qu'est-ce que tu as pensé des commentaires de Sheldon Keefe par rapport à Brad Marchand, disant que c'est un virtuose, un expert, un artiste pour s'attirer la clémence des arbitres. Pourtant, as-tu cette impression-là? Pourtant, Marchand a souvent été... Ouais. C'est vrai qu'il a changé d'attitude depuis qu'elle sait, mais je t'écoute.
Je vais être direct, ça me tape ses nerfs, parce que quand c'était contre Montréal en série, on donnait trop de double échecs à Matthews. Il y a toujours une excuse. Fait qu'à un moment donné, on veut juste se concentrer à remporter des matchs de hockey puis trouver les ajustements nécessaires pour battre une équipe comme les Bruins. On va aller faire une guerre de médias lorsque la moitié des joueurs se présentent même pas sur la patinoire. À un moment donné, comme entraîneur, tu dois décider de c'est quoi la vraie raison pourquoi qu'on perd des matchs.